commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Bienvenue sur IDFM Radio, tous les mercredis jusqu'à 22h sur les 98 FM en Ile-de-France et en DAB+, et bien sûr toujours sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli IDFM Radio et Big Bang Station. L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios en France et ailleurs. Vous retrouverez toute la liste et tous les podcasts depuis 2017 sur notre site bigbangstation.fr. Big Bang Station, c'est depuis 26 saisons un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs musique, télé, BD, culture, high-tech, histoire collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons du bilan du Dry January. En quoi consiste ce mois? Petit Manu nous fera découvrir ses origines.
Bonjour Didier, bonjour à vous tous. Effectivement, moi je ne connaissais pas son forgeron qu'on vient forgeron. J'ai appris ce que ça veut dire et je l'ai développé. Je vous donnerai des bonnes explications concernant tout simplement ce mois. Et je te remercie beaucoup Didier parce que comme quoi on apprend toujours quelque chose. Moi j'ai appris et ben je vous le ferai partager. Bonjour à tous.
Ce mois sans alcool, hein, si on traduit en français, est-il l'une des initiatives les plus efficaces pour combattre l'alcoolisme? La réponse avec Marion Acquier, psychologue clinicienne et présidente de l'association Alcoolique Anonyme France, que nous aurons au téléphone. Quelle solution 2.0 contre la dépendance à l'alcool? William nous présentera des outils high-tech.
Effectivement Didier, et salut tout le monde. Si vous avez vraiment besoin d'aide et d'être accompagné pour enfin dire stop à l'alcool, quelques outils technologiques seraient bien utiles.
Chimel nous parlera de la tendance du sans-alcool chez les cavistes. Et pour notre page culture, Kevin nous proposera un quiz des chanteurs et chanteuses qui ont eu un problème avec l'alcool. Wins Dollar en profitera pour nous parler des poètes qui ont eu des problèmes avec l'alcool. Eric nous parlera d'un personnage emblématique de bande dessinée qui a eu des problèmes avec l'alcool. C'est Petit Manu, il est extrêmement connu.
Ah, ah bah, je verrai, je sais pas, parce que moi j'ai...
Une barbe.
Moi je préfère...
Une pipe.
Il est sur un bateau.
Oh oui.
Il navigue.
Il navigue, bah il doit voyager.
En bande dessinée, ça peut être que...
Ça peut être...
Le capitaine...
Le capitaine Haddock, avec justement Tintin et son chien Milou, voilà. Capitaine Haddock, évidemment.
Eh bien, tout à fait, mon capitaine. Salut Didier, salut à tous. Aujourd'hui, je vous invite à boire un verre sans alcool avec le célèbre marin Archibald Haddock, acolyte du célèbre Tintin, afin de savoir qui il est et quel but aurait-il.
Je me suis pas trompé en disant cela.
On t'a donné quand même pas mal d'indices.
Ah bah oui, là.
Grâce à Didier, je reconnais avec les véritables. Sinon, j'aurais été incapable de trouver.
Oui, parce que tu le trouves, mais au bout de 47
ans. Ah non, mais je reconnais, moi j'ai carrément appris un verre d'âme comme un enfant. Alors là, j'avoue, j'ai l'impression de retourner à l'école.
Mais t'as lu tous les Tintins d'ailleurs?
J'en ai vu quelques-uns, mais il y avait une bonne dessinée avec un film, effectivement, voyez, oui. Capitaine Haddock, hein, et je te remercie beaucoup. Moi, c'est grâce à toi, c'est grâce à Didier, le créateur. Hein. Moi, j'ai appris, franchement, en préparant ce dossier, comme quoi il n'y a pas d'âge pour apprendre. 7 ans jusqu'à 17 ans.
Enfin, Stani se posera la question, les séries télé nous incitent-elles à boire de l'alcool? Pas de l'eau. Et l'émission est réalisée par Eric,
non? Et non, pas encore. Non.
Bon, allez, on commence cette émission sur le bilan du Dry January. Plus d'un Français sur deux consomme de l'alcool toutes les semaines. La France reste parmi les pays les plus consommateurs d'alcool au monde, se situant au 6e rang parmi les 34 pays de l'OCDE. 41 000 décès attribuables à l'alcool par an, dont 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes. Toujours en France, plus d'une personne sur 10 participe au Dry January. D'où vient ce mois sans alcool? La réponse de Petit Manu.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Hillary Clinton. David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Vous trouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux. Non.
Tous les quoi?
Allô. Alors, le Dry January, comme tu as très bien dit, Didier, vous savez ce que ça représente, vous savez justement pas boire. Alors, le Dry January est une expérience d'origine britannique. On le doit à l'organisation Alcool Change UK, qui ressemble des millions de personnes dans une douzaine
UK.
De... Comment ?
UK.
Du quai, voilà, du quai, voilà. Du quai, si vous dire du quai, voilà. Du quai, c'est comme... Comment ?
Kingdom,
voilà ce que ça veut dire. C'est de l'anglais.
Tu veux dire
bon, voilà ce que ça veut dire.
On va s'arrêter là.
Ce que ça veut dire. Simplissimus. Ressemble des milliers de personnes dans une douzaine de pays, dont le Royaume-Uni, le Canada et la Belgique. Il faut attendre 2020 pour que se tienne en France la première édition du Dry January, qui est baptisée à l'occasion du défi January. Et en même temps, il y a une bière justement où on peut boire la bière sans alcool, la tortue. Tortelle. Je sais pas si vous connaissez, mais enfin c'est une bière sans alcool, la tourtelle. Après la suite des événements, les collègues vont en parler. Voilà, tout simplement. Et je te remercie beaucoup, Didier. C'est grâce à ton émission que j'ai découvert. Comme peut-être dans le monde, il y en a d'autres qui vont découvrir aussi. Ça existe. Voilà.
Alors, qui c'est qui a fait le Dry January ici, Eric ?
Moi, naturellement, je bois pas. Donc,
pas une goutte.
Si ça m'arrive quand même pendant les événements, mais j'en ai pas fait tant que ça par le 31 au soir.
Ouais, moi je bois pas d'une certaine d'alcool.
J'aime moi, pas. Généralement, quand je bois, j'aime bien manger parce qu'au bout d'un certain temps, j'ai un peu la tête qui tourne et puis après, oh là là.
Est-ce que t'as mis de l'alcool au mois de janvier ?
Une fois, là, avec une amie, j'ai bu une fois occasionnellement, mais on avait bien mangé.
Au mois de janvier ?
Non, c'était après. Oh non, sinon, moi j'ai rien fait. J'ai fait que des concerts musicaux. Au contraire, je me suis représenté. J'ai apporté du bonheur.
Parce que l'année dernière, lui, il nous a fait le Canada Dry January.
Non, j'ai pas fait ça. Ah non, cette année, oui, c'est possible. Mais j'ai fait que des concerts musicaux. J'ai été dans les implications. Des concerts musicaux. Et j'ai une
sorte.
J'ai une sorte de concert musicaux en slam. Je fais des concerts en plein air. Mais là, je me suis arrêté parce qu'il fait un peu froid à cause de l'hiver. Je reprends. Mais sinon, j'ai fait des concerts musicaux.
Peu de personnes font ici autour de cette table.
Non, on est plutôt raisonnable. On est plutôt raisonnable.
Pas beaucoup.
Mais j'aime bien manger. J'aime bien manger parce qu'au bout d'un certain temps, on a un peu la tête qui tourne. Oh là là.
L'an dernier, près d'un tiers des Français avaient indiqué envisager de participer au mois sans alcool. Une première étude de l'université du Sussex constate que 6 mois après la fin du Dry January, 7 personnes sur 10 consomment moins d'alcool qu'avant. Le Dry January est-il l'arme anti-alcool la plus efficace ? Réponse avec Marion Wacquier, psychologue, clinicienne et présidente de l'association Alcooliques Anonymes France. Bonjour.
Bonjour.
Quand on ne boit plus une seule goutte d'alcool, on a déjà des effets bénéfiques à partir d'un mois ?
Oui, même au bout de 2 semaines, le sommeil commence à s'améliorer. Et très rapidement, on observe que la concentration, ça il n'y a pas de doute là-dessus, toutes les fonctions cognitives telles que l'attention, la mémoire, vont très vite se mobiliser différemment. Mais la première chose qu'on observe, c'est le sommeil, un meilleur sommeil et moins de fatigue, tout de suite.
Même pour les petits buveurs ?
Même pour les petits buveurs, alors après ça dépend petits buveurs, si on boit qu'un verre par semaine, je ne sais pas si la différence sera flagrante, mais pour un consommateur un peu, disons lambda, qui est en dessous du seuil de risque, mettons, qui boit moins de 10 verres par semaine, ça c'est le seuil de risque, déjà ça va se sentir assez rapidement, effectivement.
Est-ce que c'est adapté le Dry January pour les vrais, entre guillemets, alcooliques ?
Tout à fait. En fait, enfin, c'est pas ça forcément qui va les faire à décrocher forcément tout de suite, mais en tout cas, ça peut leur faire prendre conscience. Par contre, ce qu'il faut observer, c'est pour un alcoolique, comme vous dites, un sevrage, il va y avoir des effets, ce qu'on appelle un syndrome de sevrage, donc des effets liés à l'arrêt de l'alcool. Et ça, par contre, il faut l'accompagner médicalement parce que il y a quand même des risques.
Et le mois sans alcool, est-ce qu'il est efficace à long terme ?
On a observé que le mois sans alcool, pour toute personne qui consomme de l'alcool, alcoolique ou pas, c'est bénéfique. Parce que, un mois on fait un truc, le corps n'est pas soumis au stress qu'est l'alcool, parce que c'est quand même une substance psychotrope, etc. Déjà, il y a un effet bénéfique pour tout le monde. Ensuite, on observe que pour les consommateurs réguliers, mais pas forcément alcooliques, malgré tout, ça a une influence à long terme, enfin sur les mois qui suivent en tout cas, sur leur consommation, qui ça les invite à modérer leur consommation. Ils ont tendance à ralentir un petit peu sur la boisson. Après, pour les gros consommateurs, un mois sans alcool ou avec moins d'alcool, c'est déjà mieux. Mais effectivement, c'est pas forcément ça qui va changer leur problématique, parce que c'est une maladie, l'alcoolisme. Donc, mais en tout cas, ça peut leur permettre de prendre conscience qu'ils ont besoin d'aide pour mettre en place un changement dans leur vie.
Alors, quels sont les autres dispositifs anti-alcool qui marchent le mieux ?
Bah, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. De toute façon, tout ce qui amène une réduction de la consommation, c'est de toute façon mieux. Alors, ce qu'on conseille souvent, c'est par exemple, éviter les alcools forts pour du vin ou des choses comme ça. Ça va être alterner un verre d'alcool, un verre de boisson sans alcool au cours d'une soirée. Ça va être garder au moins une journée par semaine où on ne consomme pas d'alcool. Et ça, vous voyez, c'est juste des petits conseils pour limiter la casse. Ça ne va pas changer la donne radicalement, quoi.
Et l'État ne soutient pas officiellement le Dry January ?
Non. Non, malheureusement, c'est de nombreux, bah, vous avez entendu parler, hein, de ces addictologues qui ont manifesté leur mécontentement face à cette décision du gouvernement, parce que bah, nous, on est face au ravage. Hein, c'est des dizaines de milliers de morts par an, c'est des maladies, des comorbidités associés très graves, que ce soit la dépression, la cirrhose du foie et bien d'autres choses, les accidents de la voie publique, les passages en justice, parce que voilà, sous l'emprise de l'alcool, on peut agresser quelqu'un, etc. Donc, nous, on est face à ça, et voir que l'État ne soutient pas ce mois-là, qui n'est pas une... comment dire, le Dry January, c'est pas oui, il faut que tout le monde arrête de boire, c'est pas ça. C'est prenons conscience que peut-être nous avons un rapport problématique avec cette substance, parce que c'est une drogue malgré tout, hein, et peut-être allons vers quelque chose de modéré, voire pour ceux qui sont malades, bah, qui se prennent en charge et qui se fassent soigner. Voilà.
Alors oui, à contre-courant justement de ce dont on parle, justement de l'arrêt ou la diminution de la boisson alcoolique, moi j'avais une question qui concerne justement, qui est basée sur un film justement il y a 2-3 ans, peut-être que vous le connaissez, ce film qui s'appelle Drunk, avec Mads Mikkelsen. Et justement dans ce film, on voit ce groupe d'enseignants qui vont tester l'alcool justement pour avoir un peu plus de confiance, être un peu plus performant. Donc à votre avis, est-ce que dans ce film-là, il y a une part de réalité ? Est-ce que une dose d'alcool, enfin un minimum, parce que c'est vrai que c'était assez cadré quand même, on a des chiffres dans le film. Donc est-ce que ce film est un reflet de la vérité ou c'est une fiction pure et simple justement sur une hypothèse que l'alcool pourrait rendre un peu plus performant ?
Oui.
L'alcool, en fait, effectivement. C'est une substance psychotrope, donc ça a un effet sur le cerveau, sur les pensées, sur les émotions. Donc bien sûr que le premier effet, c'est l'effet désinhibant. Hein, donc pour quelqu'un, mettons, qui est un petit peu timide, ouais, qui doit être à l'aise pour parler en public par exemple, bien sûr que c'est quelque chose auquel on peut avoir recours. Et bien souvent, les alcooliques d'ailleurs, c'est une des premières raisons pour lesquelles ils ont consommé. J'entends très souvent, voilà, pour aller parler aux filles, pour passer une thèse, ou des choses comme ça, il fallait que je ne voulais pas que je tremble, ou il fallait que je vienne à l'aise, etc. Donc, bien sûr qu'il y a, quand on commence à boire, on a les bons effets au début. Mais le problème, c'est le deuxième effet qui coule, qui n'est pas rigolo du tout. Quoi. Donc, en fait, bien sûr, pour quelqu'un qui n'est pas alcoolique, pour quelqu'un qui consomme un petit peu, voilà, juste de temps en temps, et il a les bénéfices, entre guillemets, de la détente, de la désinhibition, de l'aisance, de cette espèce de fluidité. Mais C'est quand l'alcool devient une béquille et que ça devient indispensable que là c'est un problème en fait. Et puis c'est quand il y a des conséquences irréversibles entre guillemets au niveau physiologique dans le cerveau, etc. Que là en fait, les effets sympas du début, ils sont plus là parce qu'au final l'alcool c'est une substance dépréciogène, ça on a les chiffres. Et du coup, après nous avoir donné un petit peu confiance pour aller parler aux filles, ça nous fait perdre confiance parce qu'on se sent une merde, etc. Vous voyez ce que je veux dire?
Je retrouve.
Donc c'est ça le souci, c'est le deuxième effet qui se coule. Après, c'est un peu comme la coke, j'ai envie de vous dire. Quand on est sous coke, on se sent super puissant et tout. Mais en vrai, quand on est dépendant à la cocaïne, on n'est pas brillant du tout.
Ouais. D'accord.
En général, ouais, c'est vrai. Vous voyez.
Et je voulais vous demander, madame, par exemple, si on fait une activité, par exemple, comme le théâtre, la musique, comme c'est vrai que c'est les personnes qui boivent, ils sont exubérants, est-ce que ça peut changer les idées? On est avec d'autres personnes, on évite de boire, c'est une possibilité, madame, ou on est toujours dépendant?
J'ai pas bien compris la question, c'est-à-dire...
C'est désinhibant, en fait.
Non, j'ai dit de fait, une autre activité. Ouais, est-ce que...
C'était le côté désinhibant, en fait, de la chose.
Oui, tout à fait. Pour faire une activité avec d'autres personnes.
Ah, mais même si on boit avec d'autres personnes, c'est quand ça devient un besoin qu'on est dépendant.
Ah oui, non, mais...
On boit seul ou pas.
Ah oui.
Effectivement, le fait de boire seul, c'est un red flag, quoi.
C'est-à-dire,
là, on est passé... Mais il y a des personnes qui boivent toujours en société, entre guillemets, mais qui, finalement, ils cherchent tous les prétextes pour être entouré par des personnes qui consomment un petit coup pour pas se dire ah je bois seul.
Ah oui.
Au final ils s'en foutent des autres, d'une certaine manière ils s'en foutent au fond c'est quelque part ils se mentent à eux-mêmes de l'attrait qu'ils ont pour certaines personnes parce que ça va être un prétexte pour boire.
D'accord.
Merci Marion Acquier, psychologue clinicienne et présidente de l'association Alcoolique Anonyme France.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
Merci à vous.
Au revoir, et bonne chance, on vous encourage, madame Marion.
En France, on estime qu'environ 1,5 million de personnes sont alcoodépendantes et que 2,5 millions de personnes ont une consommation à risque. Depuis plusieurs années, de plus en plus de jeunes renoncent à la boisson. Et ce, pour des raisons diverses, notamment pour les effets sur la santé, mais aussi par lassitude. Il y a aussi les solutions 2.0 pour arrêter de boire, comme va nous les présenter William.
William est connecté jusqu'au bout des doigts.
Ce soir, dans ma chronique high-tech, je vais vous présenter différentes applications pour tenir ces bonnes résolutions.
Appli, objet connecté, retrouvez la sélection de William.
Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours ?
On commence la sélection avec le bracelet connecté Backtrack Skyne. Il a pour utilité de surveiller en temps réel son taux d'alcoolémie. Grâce à des capteurs biométriques, il utilise votre sueur pour récupérer les informations qui sont ensuite transmises via Bluetooth à votre smartphone. Le bracelet peut vous signaler si vous buvez trop, tout en effectuant un suivi quotidien de votre consommation d'alcool. Pour l'instant, le Backtrack Skyne est en version bêta, c'est-à-dire une pré-version avant sa commercialisation. La date de son lancement officiel n'est pas connue. Pour son innovation, l'objet a été récompensé par un prix venant de l'Institut National sur l'abus d'alcool et l'alcoolisme aux États-Unis. L'estimation de son niveau d'alcoolémie peut aussi se faire directement via une application avec Alcodroid et Drink Control sur iOS. Cela est basé sur le sexe de la personne, le poids et les boissons consommées. D'autres informations sont prises en compte comme les quantités ingérées, les calories et les dépenses. Enfin, pour arrêter ou réduire tout bonnement sa consommation d'alcool, il y a l'application Sobero. Pour ce faire, elle vous propose un accompagnement et un suivi personnalisé. Son cofondateur, Geoffrey Kretz, s'est inspiré de Quit, l'appli pour arrêter le tabac. En plus d'un suivi de votre consommation, elle vous propose des activités quotidiennes avec une phrase motivante, des exercices et le relevé de votre humeur du jour. Tout se fait à votre rythme et en fonction de vos objectifs. Si vous avez besoin de parler, vous pouvez échanger avec une communauté d'entraide et des experts à travers un chat anonyme. Pour l'utiliser, Sobero propose un abonnement à 10€ par mois, mais vous aurez droit à un essai gratuit de 7 jours. À en croire sa présentation, c'est moins cher et moins long qu'une thérapie. L'application est seulement sur iOS, mais pour Android, vous pouvez passer par I Am Sober. Voilà, avec ma sélection, j'espère que vous pourrez en finir une bonne fois pour toutes avec la boisson. C'est tout pour moi, faisons la fête sans alcool et je rends le micro.
Merci William. La tendance du sans-alcool semble se confirmer chez les cavistes spécialisés et les consommateurs tendent de plus en plus vers le sans-alcool. Et ce n'est pas près d'être fini, comme va nous l'expliquer Chimel.
La chronique mode revient dans Big Bang Station.
Nous parlerons mode et cause animale dans ma chronique.
Oh, qu'extraordinaire! Et puis je peux vous dire, eh bien les bouchées louvres, elle perd pas le nord, hein, c'est notre merveilleux Chimel. Ah là là là.
Chimel,
que du bonheur! On va pas passer les heures.
Retrouvez les explications de Chimel.
Bonjour à tous et à toutes. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler tendance du sans-alcool chez les cavistes, mais aussi chez les consommateurs. Ben oui, car la tendance au breuvage sans-alcool gagne en popularité depuis notamment l'arrivée du Dry January. Et le marché du sans-alcool connaît alors actuellement une croissance importante. C'est une des nouvelles tendances de consommation. Les boissons sans-alcool deviennent désormais à valeur ajoutée car les mentalités et les modes de consommation ont évolué. Et je pense que vous le savez très bien. Depuis 2010, l'alcool perd de son cool. Et en France, la consommation a diminué de 30% en 20 ans. Ce qui est quand même pas mal, hein, si je puis dire. Et c'est vrai que longtemps ennuyeuse, l'offre sans alcool est désormais aujourd'hui plus que jamais ancrée dans l'époque. Et oui, cette année, c'est la 11e édition du Dry January. Et elle continue de séduire de nombreux Français qui suivent l'opération du défi du mois de janvier à succès. Un engouement croissant qui va de pair avec cette émergence du sans-alcool sur le marché des spiritueux. Les cavistes sont au taquet sur ce marché dynamique et de plus en plus de cavistes spécialisés dans le sans-alcool ouvrent. Du rouge, du blanc, il y en a pour tous. Ils ont la couleur et la saveur de boissons alcoolisées sans en avoir les degrés et c'est ce qui leur fait gagner en part de marché. L'occasion rêvée pour certains viticulteurs et cavistes qui voient une possibilité d'élargir leur clientèle. Ils souhaitent donc attirer d'autres types de consommateurs, comme par exemple les 18-30 ans, qui consomment peu de vin, les femmes enceintes, les sportifs et les seniors. Et surtout ceux qui aiment le goût du vin, mais qui souhaitent réduire leur consommation. Bon, je parle du goût du vin, mais bien sûr, goût du vin, de la bière, à partir du moment où c'est sans alcool. Et ça fonctionne bien pour certains cavistes, ils voient leur chiffre d'affaires augmenter. Alors ce qui est bien avec les sans-alcool, c'est que ça nous assure 100% de plaisir et 0% de gueule de bois. Et certains viticulteurs, notamment par exemple dans le château Lacoste dans les Bouches-du-Rhône, ils ont développé une gamme de vins désalcoolisés mais aux arômes et aux goûts prometteurs. Et on a aussi plusieurs marques françaises qui voient donc le jour et qui se développent dans cette gamme de spiritueux sans alcool avec de très bons goûts. On a notamment JNPR, où l'offre de boissons sans alcool se confirme très concrètement chez eux. Alors ces dernières années, distillateur inventif, alchimiste des agrumes et des plantes, propose des versions très convaincantes à 0 degré de bière, de vin, de spiritueux, un tout autre monde très aromatique qui gagne du terrain de plus en plus dans les restaurants. Alors on a plusieurs marques, on a French Bloom, JPNR et j'en passe, qui commercialisent des boissons sans alcool inventives. C'est une tendance qui n'est sûrement pas passée à côté. Je pense que vous aussi, vous avez peut-être testé les boissons sans alcool. En tout cas, si ce n'est pas le cas, foncez.
Merci Chimel. Et c'est l'heure d'ouvrir notre page culture. Place aux artistes avec Wynn's Daughter, aux séries télé avec Stani, aux BD avec Eric et à la musique avec Kevin, dont voici le premier titre. Qui chante à votre avis? Réponse dans quelques minutes.
Au clair de ta lune, je n'étais que l'ombre de moi, chaînon de la cul. Je n'étais qu'un sourire qui fait froid dans le dos. Desperado, bourré comme un radeau, un fait latin, un fado. J'ai perdu la muse et bien souvent l'occasion de me taire. Le cul vissé par terre, aplani comme un planisphère. Je tournais en rond, on sortait de mes gonds, mais toujours à l'envers. J'ai perdu le nord. la pendule attend. L'alcool, l'absence, ça va de pair, je pense. L'alcool, l'absence, les jours impairs, substance des nuits immenses. Au clair de ta lune, j'en ai nourri des complexes. J'ai perdu la plume, même l'accent circonflexe, perplexe. Quel que soit le contexte qui se vexe, avec ou sans prétexte, j'ai perdu mon amour propre et ma raison d'être. Et le temps est lourd, propre à trouver refuge en la sieste des topinambours, des restes de terrestres. Allez, trois, nous trois dans ma veste. J'ai perdu le nord. Le froid me mord. L'alcool, l'absence, ça va de pair, je pense, l'alcool, l'absence, les jours impairs, substance des lignes immenses. Au clair de ta lune, à l'heure où les blés s'allongent, la nuit n'est que brume, mais dans la lueur de mes songes, il y a ta peau brune que je lèche et je longe, mais des flammes mèches rouges, tout éponge. Un légume devant des navets qui me nave, ivre de rancune, au son de ton nom me cabre, où je sors le sabre, ou alors, je fais tourner les tables et je parle mort. Je leur parle fort d'alcool, d'absence, qui vont de pair, je pense, d'alcool, d'absence, les jours impairs, substance des nuits immenses.
Avait reconnu, petit Manu, c'est...
Alors, c'est... Non, non.
C'est...
Non, faut écouter, parce que alors là, j'avoue... Non, faudrait bon. Que tu donnes des indications, parce que...
La réponse dans le quiz de Kevin dans quelques minutes.
Et on va retrouver, oui.
Vous êtes toujours dans Big Bang.
Station.
Pour cette spéciale bilan du dry January. L'alcool et particulièrement la bière étaient consommés depuis l'Égypte ancienne, hein, non pas par recherche d'ivresse uniquement, mais parce que l'eau potable était rare.
Ah, il faut le savoir, évidemment. Quoi.
Du tout.
Eh ouais,
tout à fait.
Voilà. Donc, petit Manu, arrête de boire l'eau potable.
Ah non, mais moi, je me nourris d'amour et d'eau fraîche. Une très jolie chanson de Céline Dion quand elle était jeune, en amour et d'amitié. Elle était jeune, 16 ans. Très jolie chanson, d'ailleurs.
Et afin d'éviter de contracter certaines maladies, il était plus sage de boire de l'alcool. Et ces breuvages firent couler beaucoup d'encre, notamment chez le poète. Wins Dollar nous en offre une sélection. Sculpteur, peintre, humoriste, acteur, chanteur, artiste en tout genre, Wins Dollar vous fait découvrir ses artistes en fonction du thème de l'émission.
C'est au nom des dindes galantes que je vous parlerai théâtre et que nous nous délecterons de caramel fou avec légèreté et cocasserie.
Wins Dollar.
Wins Dollar.
Non, Wins Dollar.
Wins Dollar.
Pas Dollar, Wins Dollar.
Wins Dollar.
C'est plus en plus court.
Je sais pas comment
alors,
j'ai fait.
Ça veut dire là...
Je sais pas.
Fille de vent.
Ah, la fille du vent. Oh oui, la fille du vent.
Et pas la fille au vent.
Non, non, bah non, parce que elle va pas être contente, sinon elle va vouloir donner des... Je sais pas comment elle est, mais elle va pas être contente. Hein.
Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ici, Alfred de Musset parle d'amour et d'aimer. Qu'importe la maîtresse. Et oui, je ne pouvais m'empêcher de le citer, car lorsque la consommation d'alcool devient importante, ou du moins tellement présente qu'elle en vient bien à occuper sa place telle une amante, une maîtresse lorsque la modération et le plaisir noble s'évaporent. Peu importe le flacon, pourvu qu'il soit plein. Chantons et buvons à ce flacon, faisons la guerre, amis, buvons donc, chantaient les buveurs de vin de Clairet. Nous voilà au XVIe siècle et l'alcool était un vecteur de lien et de communion entre tous. Il a aussi été dire que boire du vin de Clairet était bon pour lutter contre la peste, rien que ça. Pour vous enrichir de connaissances et parfaire votre culture du Moyen-Âge grâce ou à cause de l'alcool, rendez-vous sur le site moyenagepassion.com. Je bois du vin Clairet, chanson à boire et danse du XVIe siècle. Et si vous préférez plutôt être en tête-à-tête avec votre muse, qu'elle soit blonde, brune, rousse ou portée à votre palais des saveurs fruitées, veloutées, ambre, rouge ou rosée, quoi de mieux que de lire les poètes comme Apollinaire, Ronsard ou La Fontaine ? Nous faisons plutôt part, cette fois, de chemins parcourus avec l'alcool devenu l'ennemi, et vous le dirons sans embâge. Je vous livre ici un extrait du poème « L'alcool » de Dominique Simonet. « Beau nectar, bien souvent de toutes les couleurs, rouge et blanc, rosé sec ou boisson plus amère. Après ivresse et rêve, arrivent les douleurs. » Vous voulez en lire davantage, découvrir une sélection d'auteurs aux poèmes choisis visant à vous encourager à maintenir vos résolutions du Dry January, lisez sur poeticamundi.com les poèmes contre l'alcool et l'alcoolisme. Bien sûr, tous les liens seront sur le site internet de Big Bang Station. À bientôt.
Merci Wins.
D'honneur. Oh Céline, comment elle va? Son véritable prénom. On espère qu'elle va bien. Coucou Céline.
J'avais dit ton vrai prénom Céline, c'est plus facile.
Mais oui, voilà.
Donc t'es Manu.
Oui, on la salue amicalement. Coucou amical.
Allez, on continue notre page culture. Vous connaissez cette fameuse chanson de Licence 4?
Ah oui, viens voir un petit coup à la maison. Et même le monsieur avait une barbe et une chemise noire et rouge. Oh là là.
Et après, c'est quoi les paroles? Il y a du...
Du saucisson.
Du blanc
et...
Du rouge.
Et du saucisson. Tiens, au fait, il y a Ginou qui a fait une version, un jeune accordéoniste, on lui dit un gros bonjour Mika, qui a fait une version de cette chanson. Il y a une reprise. Bonjour Ginou. Oh là là.
Eh ben, si l'alcool a été illustré de manière festive en chanson, du moins au début, certains artistes l'ont évoqué de manière beaucoup plus sensible. Sans doute ont-ils connu des problèmes avec l'alcool. Qui sont ces artistes? La réponse dans le quiz de Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz, attends. Quiz. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu.
Je vais porter sur la règle.
Mais ils sont trois.
Et c'est parti pour le quiz de Kevin, qui n'est pas là, donc...
Eh ben, c'est Didier qui le remplace.
Voilà.
Le créateur de l'émission.
Le créateur. J'aime bien quand tu dis le créateur.
Ah non, mais évidemment. Oh là là, c'est un titre honorifique, évidemment.
Allez, on commence par un chanteur français. De qui s'agit-il?
Au clair de ta lune, je n'étais que l'ombre de moi, chaînon de la cul. Je n'étais qu'un sourire qui fait froid dans le dos. Desperado, bourré comme un radeau.
Alors, c'est un chanteur né en 1973. Il est né à Villefranche-sur-Saône. Ça vous aide pas?
Non.
Je demanderai même à petit Manu où ça se trouve.
Ah non, mais là, ça doit être en banlieue, mais j'étais coute ou.
Non, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes.
Oh là là, bah, évidemment, j'étais pas là, j'étais loin. Mais j'étais coute, mais alors là.
Alors, je te donne un petit indice. La première lettre de son prénom est la même lettre que son nom de famille.
Ah ouais, effectivement.
B.
Voilà. Hein?
B.
Bertrand.
Ah oui.
Bernard.
Bébé.
Bébé.
C'est. Oui, il a eu les victoires il y a 2-3 ans.
Alors, c'est un titre de 2017. Saint-Germain.
Violet. Et vous savez qu'il a été, il a une fille avec Chiara Martinelli, qui est papa. Alors vraiment, vraiment, ils sont très très bien.
Ah oui, c'est même ramassé une droite de Benabar.
Ah bah un peu de chance, mais c'est vrai qu'il chante très très bien. Il est, en plus papa il a même fait une fille pour sa fille, une chanson pour sa fille, Benjamin Biolay.
Et là c'est quoi comme titre? Un titre de 2017. L'alcool.
L'alcool.
L'alcool, l'absence.
Je connaissais pas, mais on reconnaît sa voix effectivement.
C'est une chanson qu'il n'a pas écrite par hasard, car oui, Benjamin Biolay a connu des problèmes liés à sa consommation d'alcool lorsqu'il avait 30 ans.
D'accord.
Et dans une interview au magazine Marie-Claire en 2022, il déclarait qu'il pouvait boire jusqu'à 30 bouteilles de vodka par semaine.
Oh là là, t'imagines,
c'est eh ben. Ça se voit qu'il s'est assagi.
Ah oui, il s'est assagi avec le temps. Ah ouais, ouais. Maintenant, il va même au Beaulieu, en province, faire des concerts. Mais on apprend tout ça. Là.
Allez, passons à un autre chanteur français. Qui est-il, à votre avis?
Mes illusions donnent sur la cour. J'ai mis une croix sur mes amours. Les petites pépées pour les toucher. Faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier, après mille peines et le corps harassé, j'ai le regard mort et les mains dégueulasses, celles qui mâchent le chewing-gum.
C'est un chanteur né en 1928.
Mais voilà. Que trouverais-je dans leur
et mort en 1991.
Ah.
Sinon, qu'indifférence.
Non, ça vous dit rien. Il a été le compagnon de la regrettée Jane.
Serge Gainsbourg.
Oui, c'est la voix de Serge Gainsbourg quand il était jeune.
Et qui était même peintre et très pudique d'ailleurs. Il aimait beaucoup les femmes. Oui, oh là là.
Oh, voilà.
Il avait une passion pour la peinture aussi.
Aimer, c'est un petit mot.
Non. Oh, mais c'est vrai qu'il a eu des sacrées conquêtes. Mais il était très pudique, il paraît. C'est pour ça qu'il aimait.
Alors. Oui, bien sûr, Serge Gainsbourg, avec ce titre, parle de lui-même.
Hein. Ouais.
L'alcool. Serge Gainsbourg a été un gros consommateur d'alcool. En 1973, il a même été victime d'une crise cardiaque. Mais il a tout de même continué à boire et à fumer. Et malheureusement, il est mort en 1981.
Et récemment, on peut voir son musée chez lui, dont sa fille Charlotte a tout aménagé. On peut visiter son musée. Quoi. Bon, ça va.
Allez, on passe à un chanteur, mais belge cette fois. De qui s'agit-il?
Mon verre, encore un et je vais.
C'est pas certain Jacques.
Oui.
Jacques Brel, qui est aussi comédien. Mais là, je reconnais sa voix.
Et oui, Jacques Brel avec ce titre.
L'alcool, boire, je sais pas, après il y a quelque chose.
L'ivrogne.
Et même quand il a fait l'Olympique, on voyait qu'il transpirait, c'était pas des lames de crocodile, c'était vraiment. Ça sert, quoi, il transpirait vraiment, quoi.
Chanson sortie en.
Même
pas une petite idée.
Ah bah non, mais j'ai découvert à l'instant, donc je reconnais la voix.
Pas né.
Ah bon, donc dans les années 60, à mon avis.
Voilà, 61.
Ah bah, comme quoi. Non.
Dans les années 1900.
Non, mais. Je reconnais sa voix, mais alors là, j'ai découvert. Tu vois, comme quoi on fait des sacrées découvertes dans ton émission. On peut très bien. Tu la connaissais?
Celle-ci, non.
Ah bah, moi aussi. Bah. Peut-être que vous allez découvrir aussi, je suis pas le seul. Va-t'en savoir.
Alors, Jacques Brel a été un grand consommateur d'alcool et de tabac. Il est d'ailleurs mort des suites d'un cancer du poumon comme Johnny Hallyday en 2017. Je crois que tout le monde se souvient ici.
Ah oui, bah c'est puis malheureusement.
Honneur aux femmes avec cette fois une chanteuse londonienne. De qui s'agit-il ? Très très connue.
Amy Winehouse.
Oui.
Oui, tout à fait. Malheureusement.
J'ignore qu'elle était londonienne.
Ah bon ?
Ouais.
Ah,
voilà. Et c'est une chanteuse. Elle est née en 1983 et morte en 2011. Voilà, Amy Winehouse. Petit Manu n'arrive pas à prononcer.
Oui, mais je sais qu'elle avait des gros problèmes avec son père parce qu'il voulait. Elle devait chanter, puis leur père l'a entraîné dans une galère. Elle avait un problème avec son petit ami. Et elle a beaucoup gardé pour elle. Et nous, de chance, elle a eu le drame qu'on a connu.
D'ailleurs, elle fait partie de ces artistes qui sont décédés au même âge.
Oui, tout à fait, très jeune, quoi. Mais son père.
23, c'est ça, hein, c'est la série des 23.
Elle est morte très très jeune.
Oui, ouais, très très jeune, parce qu'elle avait des problèmes avec son petit ami, le père. Là.
Ah, ok.
Ouais, son père ne l'a pas écouté, il y avait des gros problèmes familiaux, et puis manque de chance, elle n'a plus que des effets.
Elle avait 27 ans.
27 ans, assez jeune.
Et ce titre, c'est Rehab, sorti en 2006. C'est d'ailleurs dans cette chanson qu'elle évoquait pour la première fois ses problèmes liés à l'alcool.
Ah. Heureusement, Didier, on aurait pu parler d'un artiste où, manque de chance, il était dans un café avec son vin blanc. Et c'est grâce à un grand cœur malade qu'il a beaucoup aidé, Renaud. Et heureusement, maintenant, il a trouvé l'amour avec une certaine cerise, qui a des petites cerises. Et on espère que ça va mieux, mais Renaud est passé par des moments très difficiles avec l'alcool aussi. Il faut en tenir compte, malheureusement.
Vous êtes toujours dans
Big Bang Station
sur EDFM Radio jusqu'à 22h pour cette spéciale bilan du Dry January. On continue notre page culture sur le thème avec de la BD. Connu pour ses jurons, mais surtout pour être le célèbre acolyte, et pas alcoolique, quoique, de Tintin dans les aventures de Tintin par l'auteur Hergé, Archibald Haddock, oui, car nous l'oublions des fois, il s'appelle Archibald, que l'on nomme le plus souvent Capitaine Haddock, est toujours aussi populaire. Sa première apparition date des années 40 avec la bande dessinée Le Crabe aux pinces d'or. Cette apparition fut fracassante, on le découvre en état d'ébriété et en plus malade par manque d'alcool, en plein délire paranoïaque. Sa rencontre avec notre cher Tintin lui apporte un certain équilibre et délaisse peu à peu l'alcool pour une vie d'aventure, plus efficace que le Dry January visiblement. Mais qui est le capitaine Haddock et quel est son lien avec l'alcool ? Eric nous en dit plus dans sa chronique.
Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un coup de cœur. Il s'agit de la bande dessinée Les Sauveurs.
Eric nous fait découvrir le 9e art, sous l'angle de l'émission.
Je connais le 7e art, mais le 9e art, c'est quoi ? C'est peut-être sur les livres, Didier ?
Le 9e art, c'est la BD.
Mais, oh, comme quoi on apprend toujours quelque chose.
Interprété par 5 acteurs au cinéma, on ne présente plus le capitaine Haddock, habillé avec un pull bleu, n'est-ce pas ?
Exactement,
un ciel, col roulé, puis,
voilà,
une casquette et il fume.
La pipe. Et puis je crois qu'il, en plus, il râle tout le temps un petit peu.
C'est exactement.
Il y a pas mal de défauts quand même.
Voilà, oui, il en collectionne, mais c'est néanmoins le plus charismatique des marins barbus capitaines de navires maritimes intercontinentaux. En 2004, l'auteur Albert Algoud, écrivain spécialiste de l'univers de Tintin, a écrit le Haddock illustré, l'intégrale des jurons du capitaine Haddock. Alors cet ouvrage, un peu plus que ses jurons, présente en détail le capitaine Haddock, mais surtout sa particularité, comme on le disait. Il collectionne en effet pas mal de mauvais caractères en lui, mais il est sensible, oui, malgré ses colères et son impulsivité.
Et on peut dire qu'il a une sympathie aussi.
Exactement, il a une sympathie.
Et même s'il râle tout le temps, on voit qu'il a une certaine attention, quoi. Ouais.
C'est ça. Petit Manu, il râle souvent, mais il est très sympa.
Oh non, ah bah oui, oh non, non. Moi, je râle pas. Moi, j'aurais tendance à dire que je suis peut-être un peu trop bavard. On dit des fois que je suis solaire. C'est pas la même chose.
Solaire.
Solaire, ça veut dire que j'ai la pêche.
On dit que t'es lunaire.
Non, on m'a dit solaire, ça c'est dit
que
pour
t'es
faire
dans
faire...
la lune et que
non,
t'es
non,
lunaire.
Non, je suis solaire, c'est bien ce que je dis. T'inquiète pas, promoteur, voilà. Solaire, c'est bien ce que je disais, c'est pour faire plaisir.
Alors oui, en effet, si on retire l'alcool, sans l'alcool, c'est un homme attachant, avec un humour pince sans rire. Pour ce qui concerne sa grossièreté, Albert Gould le défend dans son livre, je cite, « L'idée géniale d'Hergé pour, entre autres, contourner la censure, c'est de choisir des mots du langage courant, ou bien des mots rares, et de les sortir de leur contexte pour en faire des insultes. C'est ce qui fait l'originalité de ce lexique, souligne l'auteur. » Et en effet, en 2021, elle a fêté ses 80 ans, et encore aujourd'hui, on cite ses jurons. Et d'ailleurs, je vais vous proposer une petite devinette. Alors, combien a-t-il cité de jurons ? Combien a-t-il de jurons, le capitaine Haddock ?
Alors, une question, c'est qu'est-ce que tu entends par des jurons, Eric ?
Eh bien, par exemple, quand il dit 1000 milliards de mille sabords.
Ah ouais, d'accord. Bon, oh, bah, il a dû le dire peut-être pas mal de fois, peut-être 20 fois, peut-être voire plus, mais je sais pas, je dis ça pour au hasard.
Alors, au total, on compte 220 jurons.
Ah ouais,
donc. Ah ouais, il y en a qui sont amusés à compter.
Ah ouais, j'étais un petit peu en retard. Donc, je m'étais pas trompé quand même.
Et d'ailleurs, petite devinette, 1000 millions de mille sabords, c'est une expression qui provient d'où, à votre avis ?
Ah ouais. Bah, de Belgique.
Alors,
Plus exactement, ça provient du domaine maritime. En fait, les sabords sont des ouvertures que possédaient les navires de guerre entre le XVIIe et le XIXe siècle et par lesquelles passent les tubes de canon par rangée. Et lors des combats en mer, il y a un déluge de feu qui s'abattait alors sur les vaisseaux adverses. D'où 1000 milliards de 1000 sabords.
Eh ben tu vois, tu nous apprends quelque chose, pas toi. Hein,
alors, je sens que vous êtes chaud, je vous en donne un deuxième. Alors d'où vient l'expression « tonnerre de Brest » ? Alors il y a un indice dans « tonnerre de Brest ».
Tonnerre, c'est peut-être la rapidité.
De Bretagne.
De Bretagne, tout en effet. Ah oui, on pense au gâteau, le Paris-Brest, la gourmandise avec la crème chantilly. Oulala.
Et en fait, c'est plus précisément une expression populaire qui trouve son origine dans un événement climatique exceptionnel qui s'est déroulé justement en Bretagne en 1718. Il a été connu du monde scientifique un siècle durant avant d'apparaître pour la première fois en 1835 dans le monde littéraire.
Et ça vient pas de Brest, mais la ville principale, comme a dit très bien Didier.
Ah bah si, ça doit être dans ce coin-là.
Bah, sans doute pour préciser.
Alors bon, il y en a d'autres, hein, comme bougre d'extrait de crétin des Alpes ou encore crème d'emplâtre à la graisse de hérisson. Hein.
Elles sont originales, les expressions.
Ah oui, c'est
pas
très...
une aperçue, hein, j'avoue. Waouh.
Alors justement, on rentre un peu plus dans le contexte de l'émission. Hein, c'est un grand buveur, surtout de whisky, mais aussi de rhum, de vin, de porto, de champagne et autres alcools exotiques. On constate son accoutumance, par exemple, dans l'album Tintin chez Bicaro, où le professeur Tournesol teste une pilule expérimentative qui a pour objectif de dégoûter de l'alcool et qui rend intolérant à l'alcool sur le capitaine lui-même, afin de lui dissuader de toucher un verre d'alcool. Le professeur Tournesol est peut-être le précurseur du mois sans alcool, qui sait ? Et les ennuis de santé du capitaine Haddock sont des preuves supplémentaires qui nous incitent à boire de l'alcool avec beaucoup de modération, ou pas du tout, et donnent également une certaine légitimité pour participer au Dry January. Pour preuve, dans un article du journal Le Monde publié le 26 juillet 2016 par Marc Gauzeland, l'auteur raconte que des médecins et chercheurs ont publié la même année dans la revue spécialisée La Presse Médicale les détails de tous les problèmes de santé du capitaine Haddock. Alors, dans ce recensement que, justement, j'étais curieux et j'étais voir, on y retrouve aussi bien les traumatismes, hématomes et égratignures, les commotions cérébrales, les brûlures, les malaises, que les conséquences de sa consommation d'alcool abusif. On se rappelle tous de ces états d'ébriété qui caractérisent beaucoup le personnage. Il est souvent évoqué le délirium tremens, vous savez tous ce que c'est ?
Le délire.
Oui, le délire.
Voilà,
ouais,
exactement.
C'est
une réaction au sevrage non contrôlé d'alcool, une forme sévère du syndrome de manque d'alcool, du manque alcoolique qui peut éventuellement, dans certains cas, conduire au décès. Eh bien, on peut dire qu'il est costaud, notre cher capitaine. Et c'est d'ailleurs dans l'album Le Crabe aux pinces d'or qu'on voit le plus cet état. Donc il est irritable, agressif, il est en état d'anxiété, confusion mentale, délire hallucinatoire. Et j'en profite par ailleurs pour vous partager quelques informations de ce rapport établi à partir des 15 aventures du capitaine Haddock. Donc, il aurait eu 249 problèmes de santé.
Ah ouais, quand même pas mal.
Ce qui n'est pas rien. Dont 193 étaient traumatiques, hein, le plus souvent des traumatismes crâniens, et 56 non traumatiques. Le plus fréquent de ces problèmes de santé était lié à son alcoolisme et ses ivresses aiguës, 21 au total. Les chercheurs lui ont même décelé une problème cirrhose alcoolique, hein, donc vous savez tous ce qu'est la cirrhose alcoolique.
C'est quand tu bois beaucoup, c'est au niveau du foie.
Exactement,
et
voilà,
c'est
une
foie.
Maladie
Exactement.
Du foie engendrée par l'alcool. Leurs chiffres ont démontré que le capitaine a réduit considérablement sa consommation d'alcool après sa rencontre avec Tintin, non pas parce qu'il était amoureux de Tintin, comme certains rumeurs disent, mais parce que, en fait, Tintin lui a apporté une certaine occupation, le goût de l'aventure.
Ah ouais, donc peut-être qu'il se changeait les idées, donc il pensait peut-être plus à poire.
Et voilà. Et d'ailleurs, les problèmes de santé dus à l'alcool sont passés de 58,3% à 10,7%. Alors, malgré ces 109 traumatismes crâniens, ces 12 brûlures, dont 10 liées à cause de la pipe du capitaine Haddock, vu qu'il s'est brûlé avec, ces divers piqûres de moustiques, ces expositions à des animaux exotiques et des troubles de sommeil, le fait qu'on lui compte deux hospitalisations dans la BD L'Affaire Tournesol et dans celle de Vol 747 pour Sydney et trois consultations médicales, on peut dire qu'il revient de loin, comme nous le démontrent les aventures de On a marché sur la lune, où il avait ses problèmes cardiaques, ou encore dans Les bijoux de Castafiore avec son patron. Suite à une chute.
Il a beaucoup réduit, quoi, grâce
à
Tintin.
Ah oui, je pense que l'alcool conserve mine de rien.
Bah ouais.
Sur ce, amis lecteurs, buvez avec modération ou pas du tout, et si vous êtes accro, remplacez l'alcool par l'aventure, tout comme notre légendaire Archibald Haddock.
Merci Eric.
Voilà.
On ferme notre page culture avec le petit écran, en famille ou entre amis, parce que c'est convivial pour fêter un événement, noyer son chagrin, décompresser d'une longue journée ou juste par habitude quotidienne. L'alcool est omniprésent sur nos écrans. Certains cocktails ont même joué un rôle important dans de nombreux films devenus indissociables des personnages.
au point que le 7e art a parfois contribué à les rendre iconiques, du vodka martini de James Bond au French 75 du film Casablanca, en passant par le White Russian dans The Big Lebowski des frères Coen et la Pina Colada de Tony Montana,
ah, c'est bon.
Al Pacino,
ah, oui.
dans Scarface, le cinéma semble banaliser la consommation d'alcool, du moins au début. Et le phénomène n'est pas nouveau. Entre 1949 et 1989, près de 90% des films mettent en scène des situations impliquant de l'alcool et lui donnent une image positive. Bon, il y avait des subventions en dessous, hein,
ah bah.
ce qui n'est plus le cas maintenant. Dans 43% des cas, les personnages qui boivent sont présentés comme étant physiquement et socialement attractifs. Côté petit écran, ce n'est pas mieux. Alors quel impact sur les téléspectateurs que nous sommes? Les séries télé nous incitent-elles à boire à contre-courant du dry January? Stanis s'est penché sur la question, sans modération.
Comment est abordé le thème de l'émission sur le petit écran?
Je vous dis à plus les sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Enquête de Stani.
Ah, Stéphie, elle est jolie. D'où tu viens?
C'est Stani.
Stani, on t'encourage. Stéphie, Stani, Stéphanie, qui c'est jolie.
L'alcool fait partie intégrante de la culture populaire et cinématographique. Whisky, vodka, rhum, bière, champagne, alcool pur ou cocktail, il coule à flot sur nos écrans. Et souvent, il joue un rôle clé. C'est un élément essentiel dans la trame de l'histoire. Comme au cinéma, certaines boissons alcoolisées sont d'ailleurs devenues indissociables d'une série ou d'un personnage. Le Cosmopolitan, dit Cosmo, cocktail rose, vodka, triple sec ou Cointreau, citron vert, jus de canneberge. Boisson chouchou de Carrie Bradshaw et ses copines dans la série glamour et sexy Sex and the City. Le Old Fashioned, cocktail classique bourbon, sucre et zeste d'agrumes, jamais loin de Don Draper, le directeur de création de l'agence de pub Sterling Cooper dans Mad Men. Ou la Margarita, cocktail tequila, triple sec, jus de citron, qui accompagne les parties de poker et les confidences de Gabriel Solis et ses amis Desperate Housewives. Des breuvages qui ont même bénéficié d'un regain de popularité grâce à cette médiatisation. Et c'est bien là le problème, ou en tout cas la question. Les séries télé ont-elles une mauvaise influence sur notre rapport à l'alcool et notre consommation? En gros, nous poussent à boire. Si certaines séries télé traitent de l'alcoolisme et mettent en garde contre les dangers de l'alcool et ses ravages, dans la majorité des cas, les fictions en donnent une image plutôt fun et positive. Boire, c'est cool, c'est le message que nous enverraient, à tort, nos films et séries préférées selon plusieurs études, françaises notamment. Et surtout, l'alcool est généralement consommé dans des quantités industrielles. On est bien loin de la modération. La faute à qui? Au placement de produits et à l'argent que ça rapporte. Championne toute catégorie en la matière, les séries américaines bien sûr, qui ne sont soumises à aucune restriction. En 2016, une étude présentée au Congrès des sociétés académiques de pédiatrie à Baltimore aux États-Unis s'est penchée sur le contenu éthylique de 10 séries télé populaires outre-Atlantique. Résultat, en moyenne, chaque épisode contient 2 placements de produits alcoolisés. Certains vont même jusqu'à 13. En tête des boissons consommées, les bières de différentes marques dominent largement le palmarès. Comme dans les Simpsons, qui ont même inventé leur propre marque de bière, ou la série Cheers, dont l'action se déroule carrément dans un bar. Dans How I Met Your Mother, la bande d'amis de Ted Mosby se retrouve au McLaren's, son QG. Un peu comme si le Central Perk de Friends était un pub. Le vin rouge est aussi bien placé dans le classement. Dans Cougar Town, quasi pas une scène sans un verre ou une bouteille pour l'agent immobilier et mère célibataire Jules Cobb et sa bande d'amis quarantenaires. Le vin rouge est souvent un des attributs stéréotypés, symbole de réussite et de pouvoir de la femme urbaine moderne, comme l'experte en relations publiques Olivia Pope dans Scandale, les avocates Alicia Florrick dans The Good Wife et Annalise Keating dans Murder, ou encore la femme politique Claire Underwood dans House of Cards. Et même lorsque c'est le péché mignon d'un alcoolique notoire, c'est celui d'un des plus sympathiques du petit écran, Tyrion Lannister dans Game of Thrones. De toute façon, les notions d'abus d'alcool et de consommation modérée ou normale semblent toutes relatives, pour ne pas dire faussées. On peut se demander où est la limite et même s'il y en a une. À partir de quelle quantité et fréquence peut-on considérer que c'est trop et qu'un personnage est dépendant à l'alcool? Dans Californication, le romancier autodestructeur en manque d'inspiration mais craquant, Hank Moody, est clairement reconnu et assumé comme accro à l'alcool, entre autres. Dans Mad Men, situé dans les années 60, à chaque réunion, tous les collaborateurs de l'agence Sterling Cooper ont un verre à la main. Tout le monde boit. Un des associés, Roger Sterling, en tête. Au bout d'un moment, on est même plus surpris de les voir saouls pour parler publicité. Dans The Big Bang Theory, série forcément chère à la Big Bang Team, rares sont les scènes où la jolie girl next door, Penny, ne boit pas, ne s'apprête pas à boire ou ne fait pas référence à son besoin d'un verre. Quant à Raj Shkutrapali, dit Raj, un des quatre scientifiques geeks de la bande, il est incapable d'adresser la parole à une femme s'il n'a pas bu pendant les 6 premières saisons. L'alcool est comme une potion magique, seul remède pour vaincre sa timidité. La consommation d'une importante quantité d'alcool au quotidien, en tout cas à chaque épisode, est donc banalisée et même valorisée. Et passe en conséquence sur notre rapport à l'alcool et sur notre propre consommation. Particulièrement pour les plus jeunes téléspectateurs, grands consommateurs de séries en streaming, cible privilégiée des placements de produits et peut-être plus influençables. Les psychologues s'accordent à dire que cette technique de propagande insidieuse, déjà prouvée pour le tabac, est redoutable. Quand ça passe par un modèle, un personnage qu'on aime et auquel on s'identifie, l'empreinte sur notre cerveau est différente et plus forte que les discours et autres campagnes de santé publique sur les dégâts de l'alcool, malheureusement. Enfin, malheureusement, tout dépend de quel point de vue on se place, bien sûr. Les marques, elles, diraient heureusement. D'après un sondage réalisé auprès de 2600 jeunes âgés de 15 à 20 ans pour l'étude américaine évoquée en début de chronique, sans surprise, les marques d'alcool les plus plébiscitées sont celles mises en avant dans les séries les plus regardées. Les adeptes du marathon télé cèdent plus souvent aux sirènes de l'habitude express que les autres. Pour le jeune public, mais pas que, binge-watching rime souvent avec binge-drinking. En conclusion, n'oubliez pas que, en matière de consommation d'alcool, comme pour tant d'autres choses, la fiction n'est pas la réalité et que les héros de nos séries télé préférées ne sont pas toujours des exemples à suivre. Alors même si le Dry January, c'est fini, l'alcool, c'est avec modération toute l'année. Bon, je passe un peu pour la mère la morale relou, là, je sais. Mais c'est pour votre santé et celle de ceux que vous aimez. Et puis la tendance n'est-elle pas au sans-alcool ? Sur ce, je vous dis à plus les sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Merci Stani.
Et puis Didier, je pense à une série culte, l'inspecteur Elliot Ness, qui est justement qui se battait contre la prohibition, son principal, Frank Tinky, la prohibition aux États-Unis. Alors là, il y avait beaucoup d'alcool à ce moment-là. Hein. Richard, ouais, il se battait beaucoup contre la prohibition.
Prohibition.
Prohibition, voilà.
Ah, c'était ça.
Ah ouais. Non, la prohibition.
La prohibition.
Elliot Ness qui était contre son.
C'est pas le Loch Ness non plus.
Ah, pas du tout. Elliot Ness.
Non, le Loch Ness. Ah, oui, la
prohibition. Elliot Ness et les incorruptibles qui se battaient contre son ennemi principal.
Les incorrigibles.
Voilà, Frank Nitti, hein, New York. Eh ben, l'inspecteur Elliot Ness. Eh ben, il était. Il y avait beaucoup d'alcool. Il faisait des trafics.
Un auditeur que Petit Madu n'a pas bu.
Ah non. Pas du
on
tout.
Peut se poser la question.
Ah non, je n'ai pas bu, c'est simplement des connaissances, ni plus ni moins.
D'accord.
Voilà. Non, c'est des connaissances.
Et cette émission sur le bilan du Dry January en partenariat avec journeemondiale.fr ce 2 juin.
Oh, bah non.
Oh, bah en tout cas, c'était très intéressant. On a pris des tas de choses dans le monde. On espère que vous aussi, hein, d'ailleurs.
Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez simplement la réécouter, elle est diffusée sur de nombreuses radios, la liste sur notre site internet. On se quitte avec un proverbe. L'alcool est toujours amer lorsqu'il délie plus que de raison une langue et lui débride les pensées. C'est une citation de l'auteur Jacques Netka Bokolo. Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, on parlera d'un nouveau thème, comme d'habitude, de Petit Manu.
Eh ben, justement, à moi sur Internet. On vous parle d'Internet.
Alors non, t'as mélangé les deux thèmes.
Non.
Alors, à moi sur Internet, aujourd'hui, non. Ça va être un peu compliqué.
Aujourd'hui, c'était le bilan. Du mois sans alcool,
oui,
le Dry January.
Exactement.
La semaine prochaine, c'est bien Internet, mais c'est la sécurité sur Internet.
Eh ben justement, on va vous parler de la sécurité, ce qu'il faut savoir pour les jeunes. Eh ben, vous inquiétez pas, on a bien travaillé.
Et toi, t'as intérêt à écouter. Et d'ailleurs, si tu fréquentais pas certains sites...
Non, toi, j'écoute bien en tout les secours. Et comme on dit en Bretagne, qu'est à vous. Voilà, c'est une expression.
Salut à toutes et à tous.
Salut. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut, salut.
Okay, let's stop.
Ami, remplis mon verre. Encore un et je vais. Encore un et je vais. Non, je ne pleure pas. Je chante et je suis gay. Mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre. Ami, remplis mon verre. Buvons à ta santé. Toi qui sais si bien dire que tout peut s'arranger, qu'elle va revenir. Tant pis si tu es menteur, tavernier sans tendresse. Je serai sous dans une heure, je serai sans tristesse. Buvons à la santé des amis. Et c'est des rires que je vais retrouver qui vont me revenir. Tant pis si ces seigneurs me laissent à terre. Je serai sous dans une heure, je serai sans colère. Ami, remplis mon verre encore un et je vais encore un. Je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à ma santé. Que l'on boive avec moi, que l'on vienne danser, qu'on partage ma joie. Tant pis si les danseurs me laissent sous la lune, je serai sous dans une heure, je serai sans rancune. Buvons aux jeunes filles qu'il me reste à aimer. Buvons déjà aux filles que je vais faire pleurer. Et tant pis pour les fleurs qu'elles me refuseront. Je serai sous dans une heure, je serai sans passion. Ami, remplis mon verre encore un et je vais encore un. Je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre.